Après donc ce reportage, Olivier, vous nous parlerez de la productivité dans le domaine de la production, donc une notion centrale dans notre économie, mais sur laquelle le pape semble avoir un avis critique.
Oui, j'essaierai de vous faire part de réflexions, diverses réflexions, qui viennent notamment d'échanges avec le groupe Parole de Chrétiens sur l'écologie.
Olivier, vous abordez aujourd'hui un sujet économique. Pouvez-vous en poser le cadre ?
Oui, alors Mathilde, il s'agit d'un cadre qui tient en deux propositions contradictoires. On entend souvent que consommer, c'est bon pour le commerce, parce que ça crée de l'emploi, donc c'est vertueux. Et puis on entend aussi de plus en plus que la société de consommation, elle épuise à la fois les ressources et puis et nos vies. C'est-à-dire ça étouffe un peu nos vies dans le travail. Et donc, elle serait nuisible. Et donc la question, c'est tout simplement celle-là. Comment faire la part des choses entre ces deux injonctions contradictoires? Alors juste un petit point sur la méthode. Dans le domaine de l'agriculture, beaucoup diront que les pesticides sont une nécessité absolue. Preuve à l'appui, si une année un agriculteur ne traite pas un champ qu'il a l'habitude de traiter, le champ va être infesté de parasites. Et de la même manière, dans le domaine économique, la consommation apparaît comme une nécessité absolue. Preuve à l'appui, sans consommation, le chômage augmente. Mais puisque à la fois les pesticides et la consommation, on connaît maintenant leur côté destructeur, est-ce qu'on peut penser les choses différemment, imaginer d'autres règles du jeu pour que ce ne soit plus des nécessités absolues? Et alors pour en arriver là, il faut accepter que l'économie, ce n'est pas une science immuable, mais qu'elle est construite par l'homme. D'ailleurs, il y a des prix Nobel d'économie qui sont récompensés pour des pensées vraiment en opposition complète à quelques années d'intervalle. Donc un modèle économique, il a de valeur que s'il sert le bien commun.
D'accord pour la méthode, mais revenons à la contradiction économique, écologique, si vous voulez bien, Olivier. Quel est le problème de fond de ce paradoxe ?
Il y a un siècle, on produisait beaucoup moins, et on consommait beaucoup moins, et le chômage était bien moindre. Donc il y a eu des modèles dans l'histoire dans lesquels une consommation frénétique, comme on connaît aujourd'hui, n'était pas une nécessité absolue. Alors ce qui a changé, c'est la productivité. Elle est bien supérieure à ce qu'elle était. Alors bien sûr, elle s'appuie sur des choses en grande partie néfastes, comme la consommation d'énergie fossile, mais n'empêche qu'on constate qu'elle a augmenté. Et c'est tout simple, puisque la productivité est plus élevée, il faut moins de gens, moins de salariés pour produire la même quantité de biens. Donc on a besoin de moins de personnes et donc on crée du chômage. Et ça incite à une consommation débridée pour en fait répondre à ce drame, entre guillemets, qui est l'augmentation de la productivité.
Je vois, Olivier. Alors il y a quelques semaines, nous parlions dans cette émission de ralentir les rythmes de production. Sur le plan des idées, la question est réglée, non ?
Alors c'est vrai, c'est une solution pertinente qui est vertueuse parce qu'elle permet à la fois de réduire le chômage, elle permet de réduire l'impact de l'économie sur l'environnement. Et puis, elle permet de donner du sens et une âme au travail. Quand on prend le temps de faire les choses, on les fait bien et on trouve le sens directement. Mais on peut creuser quand même un petit peu plus. Actuellement, si une tâche pénible est confiée à une machine, quelque part, c'est un drame social, parce que ça génère du chômage. Et pourtant, l'accroissement de la productivité, en soi, il peut être bon. On peut penser au tableau, je pensais au tableau « Les cribleuses de blé » de Gustave Courbet. Je ne sais pas si vous voyez ce tableau. Il y a trois personnages, il y en a à gauche une personne qui trie les grains de blé et puis les choses qui ne sont pas des grains de blé, les petits graviers par exemple, qui trie à la main, donc ça prend un temps fou. Puis au milieu du tableau, c'est une personne qui trie à l'aide d'un tamis, alors ça prend moins de temps, mais c'est très physique, c'est très fatigant. Et puis enfin, il y a un petit garçon à la droite qui simplement tourne la manivelle d'une machine à cribler le blé, voilà, et donc c'est un travail rapide et sans effort. Donc cette productivité-là, elle est un bien pour l'humanité, et tout l'enjeu, c'est de créer une organisation qui fasse en sorte que cette augmentation de la productivité, quand elle est vertueuse, quand elle repose sur des bons principes, eh bien que ce soit effectivement quelque chose de positif. Et André Gorz, en 1979, disait « Au lieu de dire que notre travail devient superflu et que nous sommes libres, on nous dit que le travail devient rare et que nous sommes menacés par le chômage. » Voilà.
Alors Olivier, quelle est cette seconde alternative ?
Alors, ça paraît un peu trivial et puis ça fait débat, mais c'est une idée qu'on peut gagner malgré tout à proposer. Il s'agit de répartir le travail. Alors, il faudra aller beaucoup plus loin dans l'analyse, mais le principe général, c'est le suivant. Il est injuste que le temps de travail et la rémunération oublient l'augmentation de la productivité. C'est-à-dire, si un salarié a une productivité deux fois plus importante à un moment donné par rapport à ce qu'il produisait avant, eh bien, si ni son temps de travail, ni sa rémunération ne changent, tout l'argent qui est généré en plus, il va s'échapper. On connaît les milliards de milliards qui se trouvent dans les paradis fiscaux actuellement. Et donc, il serait juste ou bien que sa rémunération augmente, mais alors on ne réduit pas le problème du chômage, ou bien que son temps de travail diminue.
Mais quel utopiste, Olivier! Vous nous proposez ici un remake du passage aux 35 heures? C'est bien pourtant les effets que ça a eu sur l'économie française. Et puis d'ailleurs, en parlant des 35 heures, c'est bien la preuve que le travail diminue. Nos grands-parents travaillaient nettement plus à l'usine que ne peut le faire notre génération, par exemple.
Alors, je vais revenir sur où je peux y répondre tout de suite. Nos grands-parents, je trouve que la question n'est pas si simple parce que à l'époque de nos grands-parents, un seul salaire, en gros, souvent suffisait à faire vivre le foyer. Maintenant, souvent les deux personnes travaillent, les parents travaillent dans un couple. Donc, voilà, ça serait plus compliqué que ça. Alors, pour revenir au début de la question, si on veut que ça ressemble à quelque chose de réaliste, on peut parler de la mise en place de taxes, par exemple au niveau européen, une taxe qui dirait. Ça nous semble juste, fondamentalement juste, que l'être humain et la nature soient respectés dans l'activité économique. Donc, si les autres pays hors de l'Europe, par exemple, ne respectent pas cela, eh bien, nous, Européens, puisque ça nous semble juste, on vous applique une taxe, qui n'est pas juste une taxe protectionniste, puisque elle se base sur quelque chose d'éthique. Et puis d'ailleurs, si dans 20 ans la Chine a un comportement plus vertueux que nous, eh bien, très bien qu'elle nous impose des taxes et que on progresse tous dans une spirale plutôt vertueuse. Grâce à ce mécanisme.
Mais pour quel désordre dans l'économie mondiale, Olivier?
Ben oui, alors ça provoquerait sûrement un certain désordre mondial, mais à mon sens tellement inférieur à ce qui nous attend si nous ne faisons rien. Et puis surtout, la question n'est pas de savoir si c'est réalisable, parce que les enjeux de notre civilisation sont tels qu'on sait bien qu'il nous faudra mettre en œuvre des choses qui ne nous semblent pas réalisables. Je pense qu'il faut se méfier de ce qui est réalisable parce que c'est probablement pas suffisant. Mais plutôt, est-ce juste? N'est-ce pas plus juste que de voir la nature se détériorer et l'homme s'épuiser? Et l'important derrière tout ça, on peut revenir sur ces idées, on peut en discuter longtemps, mais l'important c'est que les idées circulent et qu'on s'autorise à remettre en cause ce qui nous semble immuable.
Alors, si je reprends Olivier, baisser la productivité d'un côté, travailler moins d'un autre côté, pourquoi finalement utiliser une méthode plutôt que l'autre? Au passage, je trouve que votre méthode peut être dangereuse, hein, puisqu'elle s'appuie sur les gains de productivité qui s'appuient eux-mêmes généralement sur l'utilisation des énergies fossiles.
Oui, c'est une excellente question. Alors, il ne s'agit pas d'opposer les deux solutions, mais de voir leur complémentarité. L'idée est la suivante. Le gain de productivité est mauvais partout où l'accroissement de productivité se fait au détriment. Alors, j'ai mis trois critères. Donc, un gain de productivité, il sera mauvais si il agit contre l'homme, par le stress, par l'appauvrissement de la variété des tâches dans le travail, par l'autonomie, etc. Deuxième point, de la nature, au détriment de la nature, c'est-à-dire l'utilisation des énergies fossiles, matières premières non renouvelables, etc. Et puis du produit. Si le produit il est fragile, on ne peut pas le réparer, ou il est de mauvaise qualité. Voilà, donc du moment que notre gain de productivité il abîme ces trois critères, il n'est pas bon, il faut s'en passer. Et alors au passage, bien sûr, ça représente, si on revient en arrière, un pan énorme de nos productions actuelles. Il y a un tri colossal à faire et un grand bouleversement à attendre. Actuellement, nos utilisations d'énergies fossiles nécessitent au contraire qu'on réduise drastiquement notre productivité, puisque c'est absolument intenable. Et puis par contre, lorsque ni l'homme, ni la nature, ni la qualité de produit ne sont affectés négativement par l'augmentation de la productivité, alors bah, profitons-en pour travailler moins. Le sain accroissement de la productivité est bon pour l'humanité à condition qu'on sache s'en servir. Voilà, profitons du temps libre.
Eh bien, prenons un petit temps libre au cœur de cet apport pour écouter Les gens pressés de Kenny Arcana.
Hello, hello, planète Terre, planète en détresse, petit homme surmené au milieu des SOS. Petit homme n'entend plus même son propre mal-être. Il court pour oublier que c'est oublié dans le paraître. Hello, hello, j'en presse les nerfs à l'enfer. Qui prône un royaume qui ressemble à l'enfer.
prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleur d'usine, nous barreaux en fer, horizon de barrière, là où le mur nous encercle. Sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui torpère, civilisation de vice et de panthère, vente d'indignation venue de la planète entière. Fils de l'aberration que les siècles étranglèrent, brise tes chaînes. Toi, gardien de ton frère, incarne dignement ce que le ciel t'a offert. En plein chamboulement électrique, atmosphère, Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes, alors brise tes chaînes. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette, d'une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre toi, alors l'oubli de toi sera la terre. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paresse, les nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du malaise. Brise tes chaînes.
Écoute le souffle de l'âme, les foules n'ont pas raison.
Sans inhibition, qui marche dans la nuit, dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant, l'a tué pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse, détresse, ce poids, détresse. L'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse, pays riche et ses champs des CF. Légitime, on se bat, on se lève. Véridique, c'est jeunesse, y'a plus d'une, on se rêve. On se trahit, on se crève. En secret, on s'aime, on haït, on saigne. Si on faille, on serre, on crève, si on cède. Rien n'est pas si l'on sait, la vie vouée à triompher, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette, d'une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre toi, alors l'oubli de toi sera la terre. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paresse, les nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du malaise. Brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais des lettres et d'histoires qui t'interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir le futur, pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir. Vitrine, victime, tuée pour la gloire attirée par ce qui prime. Pensant qu'à avoir, prétendant tout savoir, des abusés à force de croire tout ce qu'ils disent sur le banc des accusés. Insoumission, qu'on veut mort ou derrière des barreaux de prison. Digne héritière étriquée aux éclats de vérité, mutilée par bien trop d'oppression. Arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons. Inertie totale, infectée, les plaies, le sang sclérosées par des milliers de questions et les angoisses qu'elles t'amènent. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette, d'une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre toi, alors l'oubli de toi sera la terre. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paresse, les nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du malaise. Brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette, d'une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre toi, alors l'oubli de toi sera la terre. Mais dans l'esprit, de la fête, l'angoisse et les cris étouffés par le paresse, les nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du malaise.
De retour sur Fleur de Sel, nous retrouvons Olivier autour des questions de productivité et de temps de travail. Olivier, vous semblez laisser une maigre place au travail, mais l'homme a besoin d'un cadre structurant pour rythmer ses journées. Il faudra qu'on en parle. Le travail lui donne un cadre, un sens, des collègues, un projet. On ne peut pas tout jeter
oui,
la poubelle.
Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il ne s'agit pas de supprimer le travail, mais de l'adapter graduellement à la baisse pour éviter qu'une saine hausse de productivité n'ait un effet néfaste. Alors cela dit, l'homme a besoin d'un cadre structurant, je suis bien d'accord. Et le travail actuel est souvent vécu comme un cadre aliénant imposé. Tout homme est appelé à se réaliser, à s'épanouir, et le travail doit être un facteur de cette réalisation. Or, on voit énormément de personnes qui cumulent une activité alimentaire, parce qu'il faut bien manger, et une activité qui aura du sens à leurs yeux, mais qui ne sera pas rémunérée. Et bien souvent, c'est cette seconde activité, ils n'ont pas la possibilité de le développer autant qu'ils aimeraient. Et s'ils pouvaient être moins liés à la contrainte alimentaire, quel trésor de créativité, d'enthousiasme on pourrait libérer.
Oui, alors vous croyez vraiment, Olivier, qu'on serait capable de faire quelque chose, de se t'en dégager ?
Ben, beaucoup de retraités s'en sortent très bien, malgré le fait d'avoir passé 40 ans dans un cadre souvent figé, donc c'est la preuve que c'est possible. Mais surtout, j'en appelle à l'ambition.
À l'ambition.
L'ambition. L'exemple du champ habitué aux pesticides peut être parlant ici. Bien sûr, si on arrête les intrants, le champ a bien du mal à se remettre, et l'année suivante, les récoltes de fruits sans pesticides seront maigres. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dans la nature même de ce champ d'avoir besoin de pesticides pour être sain. Abné Nour, je ne suis pas sûr de bien dire son prénom, Bidar, dans un livre qui s'appelle « Plaidoyer pour la fraternité », écrit une phrase qui me plaît beaucoup. Je me permets de lui emprunter, même si elle est un peu dure, il dit « J'en ai assez de ces professeurs de réalité qui prennent la médiocrité de leurs propres ambitions pour la limite de l'humanité elle-même. »
Phrase dure, effectivement.
Oui, mais je trouve qu'elle fait du bien parce qu'elle peut nous permettre de voir un peu au-delà de seulement ce qu'on croit être possible. Alors effectivement, fatigué de ses longues journées de travail, l'employé a tendance à consommer ses loisirs. Et c'est normal, quand on rentre du travail, on est vidé. Mais si on rentre d'une matinée de travail, c'est autre chose. Le loisir peut redevenir actif, créatif, artistique, collectif, militant, philosophique. On peut vraiment prendre le temps de prier, le temps d'admirer la création. Les envies que l'on met de côté, nos rêves, qu'est-ce qui ferait de nous si on avait le temps de les laisser s'exprimer? De combien de livres éclairants, de découvertes capitales se prive l'humanité? Et dans l'histoire, ceux qui ont fait progresser les civilisations, ce sont souvent les oisifs qui se passionnaient gratuitement pour des sujets. Les grands philosophes, les grands inventeurs avaient rarement à se tuer à la tâche pour nourrir leur famille. Donc il y a fort à parier que si cette répartition du travail avait été mise en œuvre dès le début de la révolution industrielle, la conscience universelle, plus développée qu'elle n'est actuellement, elle aurait évité que le monde se trouve dans les grandes impasses dans lesquelles on est actuellement.
Alors c'est joli tout ça, Olivier, mais c'est un petit peu loin de nos réalités, non?
Ben justement, je trouve que notre pragmatisme un petit peu rabougri, c'est une des causes du problème. Cette approche que certains taxent d'idéaliste, elle est paradoxalement plus réaliste. Pourquoi? Parce que depuis toujours, ce qui a menacé l'espèce humaine, c'est la difficulté à produire suffisamment de nourriture et de biens élémentaires. Il était normal, enfin il est toujours normal, mais il est normal que l'homme travaille dans la mesure où son travail facilite l'accès aux ressources vitales. Donc il y a une menace qui est très forte, qui est le manque d'accès aux ressources, et donc on travaille pour pallier à ça. Et aujourd'hui, dans notre société de profusion, la menace qui pèse sur nous, c'est plus la difficulté à produire, mais c'est le bon usage de notre capacité à produire, par la sobriété énergétique, par le respect de la création, etc. Donc c'est de l'ordre de la conscience, de l'éthique. Puisque la menace a changé, le pragmatisme, le réalisme, veut que l'être humain n'occupe plus son temps principalement à produire, puisque c'est plus le problème, mais occupe son temps à qu'est-ce qu'il est bon de produire, comment il est bon de le produire. Et donc, il y a grand besoin de conscience, et donc on rééquilibre le temps humain vers beaucoup plus de conscience et beaucoup moins de production.
Bon, un mot de conclusion, Olivier?
Oui, finalement, tout ça, c'est pas pour dire il faudrait faire comme ça, mais beaucoup plus pour dire on peut faire différemment, et on a le droit d'imaginer autre chose. Ralentir la productivité, partager le travail. L'idée est que l'économie actuelle, qui impose à l'homme et à la nature des pressions de plus en plus insupportables, doit se réinventer. Alors, se réinventer en produisant plus lentement, ou se réinventer en répartissant le travail différemment, etc. Et je pense, avec un brin de provocation, que dans quelques générations, notre système actuel sera rejeté par la communauté chrétienne, à juste titre, bien davantage que ne l'est actuellement le communisme, parce que ces mots auront été phénoménaux. Donc, et alors pour renvoyer ces systèmes dos à dos, pour pas en encourager un plutôt que l'autre, je pense que le problème, c'est pas forcément le système en lui-même, mais la naïveté qui consiste à faire confiance à un système, à considérer qu'une fois que le système est en place, il sert le bien commun naturellement et pour toujours.
Alors dans quelques générations, ou peut-être plutôt qu'on le pense.
Peut-être avant, oui.
Alors avez-vous des lectures, Olivier, à nous proposer pour aller plus loin sur
alors,
ce sujet?
Alors moi, je suis pas un grand lecteur, mais j'ai plutôt des vidéos qui sont disponibles sur Internet que je peux proposer. Notamment L'éloge de l'oisiveté, qui est une pièce de théâtre inspirée d'un roman de Bertrand Russell, donc qui se trouve sur Internet. Je mettrai le lien dans le podcast de l'émission. Et puis une conférence gesticulée de Franck Lepage, qui se trouve aussi sur Internet. Donc voilà, j'en parlerai aussi dans le podcast.
Très bien, merci beaucoup Olivier.
Merci.